Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Ah. Moi, j'aime bien entendre les amen communs comme ça. Je trouve que ça honore Dieu. Je me réjouis toujours de ce temps qu'on passe dans la louange, à le glorifier, à le louer, à chanter ses bienfaits. Et, en tout cas, pour moi, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur. Et c'est toujours un moment béni. Ce matin, je voudrais aborder un sujet, développer quelques points sur le comportement ou les comportements qu'un chrétien, ou un non-chrétien, mais a fortiori quand on est croyant, qu'on marche avec Christ, et comment peut-on ou doit-on se comporter face aux fardeaux qui peuvent se présenter dans les vies. Quand on rencontre Jésus-Christ, quand on fait cette merveilleuse découverte de la conversion, de la repentance, il y a vraiment une libération par rapport au péché, où on a cette assurance que Christ a pardonné nos péchés, il y a une nouvelle vie qui commence. Il y a même parfois, on entend dans des témoignages, des gens qui le ressentent presque physiquement, en disant « j'ai senti comme un poids qui était ôté de mes épaules ». Et effectivement, on se sent libre, libre du péché. Mais il peut parfois rester des fardeaux, des charges, des choses qui pèsent sur les vies et qui sont lourdes à porter. Et puis qui vont finir par nous freiner dans notre marche chrétienne. Et je ne vais pas tout développer, mais je pense qu'il peut y avoir deux sortes de fardeaux ou deux, on va dire, circonstances peut-être différentes. Il y a des fardeaux qui sont liés à notre vie passée avant notre rencontre avec Jésus-Christ. Et puis il y a aussi des fardeaux peut-être que nous avons pris, consciemment ou inconsciemment, voire repris, au fil du temps, après avoir rencontré le Seigneur. Sur les fardeaux qui sont liés aux vies passées, on le sait, quand on ne connaît pas le Seigneur, le péché nous amène dans des situations de misère, de désespoir, dans toutes les difficultés de la vie. Et il y a des fardeaux qui sont, je dirais, pour certains, liés à des traditions. Des traditions en tout genre, alors je ne vais pas toutes les énumérer ni les développer, mais il y a des traditions culturelles. Des traditions culturelles qui sont liées à des coutumes, quelles qu'elles soient, là aussi. Quand vous parlez avec des frères et sœurs africains, quand vous parlez avec des frères et sœurs peut-être asiatiques, peut-être et puis eux-mêmes peuvent être surpris peut-être des coutumes françaises, mais on se rend compte que les coutumes culturelles ont mis sur les vies parfois des fardeaux, parce que c'est des choses qui ont été instituées et qui sont reportées de génération en génération et qui sont comme quelque chose, comme des rails dans lesquels ou sur lesquels c'est comme ça parce que ça a toujours été comme ça. Donc on charge au fur et à mesure des générations des poids sur les vies et qui ne sont pas forcément toujours enlevés au moment de la conversion. Il y a des traditions religieuses, quelle que soit la religion. En France, pour une grande partie, les origines sont plutôt catholiques, mais ça peut être des origines musulmanes, hindoues, quelle que soit, je dirais, la tradition. Je dirais presque la religion de l'athéisme, c'est-à-dire que la pratique d'une religion amène des coutumes et des choses qui, là aussi, enferment les gens, les mettent sous des jougs qui deviennent des fardeaux et qui peuvent être, au fil du temps, des choses qui pèsent sur les vies. Ça ne remet pas en cause la conversion authentique, la rencontre qu'on a pu vivre avec Jésus-Christ qui a transformé la vie, mais parfois on continue à avancer avec des fardeaux qui sont restés. Les traditions familiales, parfois on entend, mais ça a toujours été comme ça dans la famille. Ça a toujours été comme ça, sur des coutumes, des traditions, des choses qu'on reporte. Sur le rôle, les responsabilités des uns des autres, parce que t'es l'aîné, ça doit se passer comme ça, parce que t'es un gars, ça doit se passer comme ça, parce que t'es une fille. Et ça peut devenir un fardeau sur les vies. Autant de fardeaux qui ont structurés, qui ont blessé, qui ont déformé, voire parfois même anéanti des vies. Il y a le fardeau aussi de la culpabilité. Jésus nous a appelés, je le disais, alors que nous étions dans la boue du péché, avec toutes ses conséquences. Il a fait de nous des enfants de Dieu, rachetés, nous a justifiés. Et même dans sa miséricorde, il nous relève quand nous chutons et que nous revenons à lui repentant. Et malgré tout, pourtant, la culpabilité peut s'installer dans les vies et devenir un véritable fardeau, de plus en plus lourd à porter et qui nous conduit dans le doute, qui nous conduit dans toutes sortes de pensées négatives. Ah oui, mais il s'est passé ça dans ma vie, et puis si j'avais su, et puis pourquoi, et puis et des tas de choses qui vont venir nous accabler, peser. Alors je ne parle pas ici de chrétiens qui vivraient dans le péché, qui pratiqueraient. Je ne parle pas de la conscience qui nous reprend quand nous vivons dans le péché. Mais je parle ici de choses où, sincèrement, on s'est repenti devant Dieu, on a été pardonné, et puis il y a cette voix accusatrice qui revient régulièrement et qui nous appuie dessus, qui nous appuie et qui est comme un fardeau. Il y a le fardeau des blessures de l'enfance, des mauvaises relations entre parents et enfants, les blessures de l'injustice qu'on a pu subir, le fardeau des trahisons, le fardeau des sentiments qui ont été abîmés, le fardeau de la calomnie, et on pourrait ajouter encore beaucoup de choses. Le fardeau du légalisme. Parce qu'on n'a pas saisi, on l'a chanté ce matin, la grâce de Dieu, on le chante souvent, on le prie, on le loue. Mais parfois, on ne saisit pas toute la dimension de la grâce de Dieu. Alors on essaye par ses propres forces, parce qu'on a bien compris qu'il faut être agréable à Dieu. Mais on vit dans une vie chrétienne avec des interdits, hein, c'est j'ai le droit, j'ai pas le droit. Et Robert prenait ces deux textes de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Alors parfois, on a compris qu'on est dans la Nouvelle Alliance, puis de temps en temps, on va repiocher un petit peu des choses de l'Ancienne Alliance. Et puis on vient les remettre, et puis au fur et à mesure, ça devient des choses qui nous accablent. Alors c'est des questions de nourriture, c'est des questions de fréquentation, de ci, de ça. Puis on rentre dans un mode de fonctionnement où je ne suis plus dans une relation d'amour et de grâce qui n'est pas sujet, là encore, à vivre et à faire n'importe quoi, mais de dire la grâce et la bonté du cœur de Dieu, mais on est plus dans j'ai le droit de faire, j'ai pas le droit de faire, et on est là avec quelque chose qui, de plus en plus, peut venir peser sur les vies. Parfois, on transpose aussi l'ancienne religion sur, je dirais, une nouvelle religion évangélique. On n'a pas compris complètement que la vie avec Christ, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Alors on vient d'un monde où on était religieux, où il y avait des coutumes, il y avait des dogmes, il y avait des pratiques. Et puis on a trouvé un jour une église évangélique où il y a la vie, où il y a la liberté. Oh, je me sens bien. Amen, j'espère qu'on se sent bien dans la présence de Dieu. Mais parfois on a transposé, parce qu'on n'a pas tout à fait saisi que la vie chrétienne, la véritable vie chrétienne, c'est une relation pleine et entière, simple, avec un Dieu de grâce, avec un Dieu d'amour. Alors, on rentre dans une sorte de pratique religieuse évangélique, mais la religion évangélique, je le dis souvent, elle n'est pas meilleure que les autres, parce que nous ne sommes pas appelés à une religion, nous sommes appelés à une relation. Amen. Amen. Oh, j'espère que je ne vous endors pas. Ben bon. Certainement beaucoup trop d'autres types de fardeaux qui pèsent sur les vies, mais nous avons une merveilleuse espérance en Jésus-Christ. Ce verset que les chrétiens connaissent bien, Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » D'autres traductions disent « accablés, vous qui êtes accablés, et je vous donnerai du repos. » Non seulement Jésus veut nous décharger, mais il demande que nous venions à lui pour nous-mêmes nous décharger. Mais il veut aussi nous apporter ses tendres soins, nous restaurer, nous guérir, nous faire entrer dès ici-bas dans son repos. Et dimanche dernier, Robert parlait de parfois cette image du sac à dos qui est lourd, qui est comme ces fardeaux qu'on porte, et à un moment, on a même besoin, parce qu'on perd l'équilibre, on a besoin de trouver quelque chose, un appui pour l'enlever. Et si on veut que le Seigneur nous guérisse de ces fardeaux qui ont été trop lourds, qui nous ont écrasés, ben, il va falloir décharger le fardeau. Il va falloir le décharger parce que la vie qui a été abîmée, si je la soigne et que je continue à porter le fardeau, ça ne va pas servir à grand-chose. quand on a un problème, si des personnes ont porté pendant longtemps de lourdes charges, on parle dans la loi travail, si vous suivez un petit peu l'actualité, le compte pénibilité, hein, puisqu'il faut mesurer par catégorie professionnelle ce qui est pénible, ce qui ne l'est pas. Bon. Mais au-delà de ça, les gens qui ont des travaux manuels, que ce soit en usine, que ce soit des travaux ouvriers sur les chantiers, à la ferme ou d'autres, on sait que quand on est habitué à porter de lourdes charges, ben, l'organisme, le squelette, il est déformé, il est abîmé. Et si à un moment, le médecin me prescrit des séances de kiné, mais que je continue à porter mes charges, ben, les séances de kiné, ça va être du rafistolage, mais ça va continuer. Et dans la vie chrétienne, avec les fardeaux, c'est pareil. C'est-à-dire que si à un moment, je vais à Jésus pour être guéri, mais que je continue à porter le fardeau, eh bien, le Seigneur ne va pas pouvoir faire une œuvre complète. Pierre, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 7, dit ceci, « Déchargez-vous sur lui, sur Dieu, de tous vos soucis. » Pas quelques-uns seulement, de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Et vous remarquez qu'il n'est pas écrit que Dieu prendra soin de nous. Il prend soin de nous. C'est du présent, c'est de l'actuel. Mais pour qu'il puisse nous soigner, pour qu'il puisse nous guérir, nous restaurer, il est nécessaire de nous décharger. C'est, je dirais, un acte volontaire. Il est bien question ici de décharger-vous. On pourrait dire « je viens à Dieu » et j'y viendrai un peu plus tard parce que parfois on se sent tellement sans force qu'on n'y arrive plus, on a besoin d'être aidé. Mais c'est un acte volontaire. Il faut en avoir la volonté. Peut-être de dire « je n'ai pas la force, mais je veux l'abandonner » pour que le Seigneur puisse nous restaurer. C'est un acte de foi. Se décharger sur Dieu, ça veut dire abandonner totalement. Ça veut dire confier, ça veut dire qu'il y a une rupture. Il y a un avant et il y a un après, c'est ce que Dieu attend que nous fassions avec nos fardeaux et avec tous nos fardeaux. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Et je voudrais citer un verset parce que c'est imagé, déchargez-vous de vos fardeaux. Ben oui, moi je veux bien, mais c'est quoi le fardeau? Comment je fais? Moi, je trouve qu'il y a un verset qui explique assez bien est-ce qu'il est synonyme ou est-ce qu'il complète, mais je trouve qu'il va bien avec. C'est le passage, là aussi, que beaucoup connaissent bien, du psaume 84, les versets 6 à 8, et il est dit ceci, « Heureux ceux qui placent en toi, ceux qui placent en Dieu leur appui. Ceux-là sont heureux. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, Baca, c'est les pleurs, la vallée des pleurs, la vallée des larmes, la vallée des difficultés, des épreuves, il la transforme. Et là aussi, je le dis souvent, il la transforme, ce n'est pas Dieu la transforme, il, c'est au pluriel. Ce sont ceux qui traversent les difficultés. En prenant leur appui sur Dieu, alors il la transforme en un lieu plein de sources. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Et il y a une conclusion, moi, qui m'épate toujours, leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Ça, c'est quelque chose qui est contre nature. Vous pouvez prendre n'importe quel marcheur, coureur, marathonien ou que sais-je encore, ou des gens qui aiment la randonnée, c'est contre nature que les forces se renouvellent pendant la marche. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et c'est exactement le contraire de ce qui se passe lorsqu'on est chargé. Quand les gens qui font de la randonnée ou qui font du marathon et qui court, plus on est chargé, et plus on se fatigue, et plus les forces nous manquent rapidement. Mais là, il est question de ceux et celles qui acceptent de se décharger sur Dieu de leur fardeau, ceux qui placent en lui leur appui, alors leur force augmente pendant la marche. Alors, c'est une bonne chose que de se décharger sur Dieu de notre fardeau, mais je le disais, ça sera efficace durablement que dans la mesure où nous ne nous rechargeons pas d'autres fardeaux, voire du même que nous finirions parfois par reprendre. Si je prends l'image d'une remorque, pour les gens qui ont une remorque et que vous commencez à la charger, vous savez, si vous mettez une petite brique dans une remorque, pour les gens qui font un peu de travaux, si vous mettez une brique dans la remorque, elle ne sent rien du tout. Il ne se passe rien. Vous en mettez une deuxième, il ne se passe pas grand-chose, puis vous en mettez une troisième, et puis vous continuez. Et puis la suspension, elle commence tout doucement à descendre. Et puis à un moment, il y a une brique peut faire la différence. Vous savez, le dicton qui dit la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Eh bien, les fardeaux, c'est pareil. La brique, à un moment, qui va être de trop, elle la remorque, elle va s'écrouler. Et parfois, on se charge dans la vie de tout petits fardeaux. Oh, c'est même pas un fardeau, je le sens même pas. Et puis, on en prend un deuxième, et puis on en prend un troisième. Et ça continue, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de ralentir dans notre marche, qu'on est tranquillement en train de perdre nos forces. Et si on continue ainsi, on ne tardera pas à s'écrouler, à s'effondrer sous une charge qui est devenue bien trop lourde à porter. Alors là aussi, je pense qu'il y a quelques pistes, quelques remèdes, et je voudrais qu'on puisse lire ensemble un passage dans le livre des Hébreux, un verset qui m'a aussi beaucoup parlé dans des temps et que j'essaye de garder à l'esprit aussi souvent que possible. Hébreux au chapitre 12, et nous lirons juste les trois premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et je voudrais m'arrêter juste sur les deux premiers versets. Nous donc aussi, rejetons tout fardeau. Pour faire quoi ? Pour courir dans la carrière qui nous est ouverte. Et de quelle manière devons-nous courir ? Les regards sur Jésus. Nous donc aussi, fait donc référence à quelque chose qui a été dit avant, les imprimeurs, les gens qui ont travaillé sur la traduction de la Bible l'ont séquencé par chapitre et par verset pour faciliter la lecture, mais il est évident que dans les textes originaux, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Quand l'apôtre Paul il écrivait une lettre aux églises ou quand l'auteur de l'épître aux Hébreux a écrit la lettre, il n'a pas dit chapitre 1, chapitre 2. Le texte était écrit dans son ensemble, et après, il était séquencé. Alors ici, effectivement, on passe d'un chapitre 11 à un chapitre 12, mais il est évident que « nous donc aussi » fait allusion à ce qui s'est dit avant. Et dans ce chapitre 11, il est question d'un certain nombre de personnes, de patriarches, de personnes de l'Ancien Testament qui ont été appelées les témoins de la foi. Et « nous donc aussi » veut dire que de la même manière que eux ont été témoins de la foi, nous aussi, nous sommes au même rang qu'eux, au même rang que les témoins de la foi, parce que nous sommes appelés, chacun à notre niveau, à être des témoins de la foi. Pas forcément de la même nature. Quand on prend la liste, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, on pourrait allonger la liste. Les témoins de la foi, Marie-Thérèse, Yves, Robert, Jean-François, Jeannette, et on peut mettre chacun notre prénom peut-être dans cette liste des témoins de la foi. C'est en tout cas ce à quoi nous sommes appelés, puisque nous donc aussi, ça veut dire que la liste n'est pas arrêtée. Mais ces témoins-là, ils ont tous vécu des choses différentes. Leurs expériences sont différentes les unes des autres, mais ce qu'ils ont de commun, c'est leur foi vivante en Dieu. Et chaque cas qui est recensé, relaté ici, commence par « c'est par la foi ». C'est par la foi qu'Abel, c'est par la foi qu'Enoch, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que Noé. Ça n'est pas par leur propre force, ça n'est pas par leur talent, c'est juste parce qu'ils ont laissé la bonne place à Dieu et qu'ils ont cru en un Dieu vivant. Et nous donc aussi nous encourage à mettre notre foi dans ce même Dieu vivant qui est de toute éternité, qui est le même. Le Dieu de Moïse, c'est le même Dieu de Daniel Teller. Ce n'est pas un autre. Ce n'est pas le Dieu du Nouveau Testament, ce n'est pas le Dieu du 9 juillet 2017, c'est le Dieu d'éternité. Et comme eux, nous pouvons voir l'œuvre miraculeuse de Dieu dans notre vie. Et donc, dans ce chapitre 12, l'auteur de l'Épître fait un lien direct entre l'acte de foi, où il dit, voilà, les témoins de la foi, c'est par la foi que ces choses se sont accomplies. Et il fait un lien direct avec le rejet de tout fardeau. Après avoir mentionné tous ces actes de foi, il dit, nous donc aussi, rejetons tout fardeau. Pas seulement les plus lourds, pas seulement ceux pour lesquels on se sent incapable, je suis trop faible. Bien évidemment, quand le fardeau il arrive, qu'il est trop lourd, on se dit, non, mais j'y arriverai jamais, Seigneur. Mais tout fardeau. Nous devons tous les rejeter sans exception. Je ne m'attarderai pas sur et le péché qui nous enveloppe si facilement. Je me suis dit, l'auteur met sur le même rang, peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas faire d'interprétation, mais il parle à la fois des fardeaux, il parle du péché. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il nous appelle à rejeter avec la même détermination et le péché qui nous enveloppe si facilement, et les fardeaux qui peuvent aussi nous envelopper si facilement. Et ça, c'est vraiment un encouragement à dire « je suis déterminé à rejeter le péché » alors que j'ai la même détermination à rejeter tout fardeau. Le seul moyen efficace de rejeter tout fardeau, c'est de mettre notre foi en action chaque fois que l'occasion se présente. Ah, encore une tuile. Pouh, c'est vraiment pas la journée. Il manquait plus que ça. Je pense qu'on l'a à peu près tous dit à un moment ou à un autre. Oh, comme si ça ne suffisait pas. Ça va être quoi la prochaine fois? Et on pourrait rajouter la liste. Stop. Elle est où, ma foi? Elle est où, ma foi? Est-ce que je l'ai laissée au placard, au garage, dans ma poche, je ne sais pas trop où? Elle est où, ma foi? C'est le moment de la mettre en action. Aussitôt. C'est le moment de la mettre en action, aussitôt, sans perdre de temps, avant que toutes sortes de pensées viennent m'assaillir. Ça ne veut pas dire que je dois minimiser la situation, l'ignorer ou botter en touche. On n'est pas, je le dis aussi parfois, on n'est pas dans de la méthode Coué, où les gens se persuadent que ça va bien aller. L'épreuve, elle est là. Et dans ce psaume que nous avons lu, il est bien question de la vallée de Baca, la vallée des pleurs. Donc, on est amené dans la vie à passer par des temps d'épreuve. Mais ce temps d'épreuve doit-il être un fardeau ou doit-il être un temps difficile? Robert le rappelait aussi dimanche dernier, quoique nous soyons pour un temps dans l'affliction, mais est-ce que ça va devenir un fardeau ou est-ce que ce ne sera pas un fardeau parce que je l'abandonne dans les mains de Dieu? Seigneur, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais ce que je sais, c'est que si je te laisse faire, alors tu vas prendre les choses en main. J'ai pleinement confiance en toi. Et c'est ça qui va changer la chose, et c'est ça qui fait que nous arriverons à transformer ces vallées d'épreuves, ces vallées de larmes, en un lieu plein de sources, parce que nous nous appuierons sur Christ. Et ce moment-là, il est décisif. Parce qu'il va déterminer si la situation, si ces moments difficiles que nous traversons, que nous vivons, à ce moment-là, ça va déterminer si cette situation devient un fardeau ou si je la transforme en ce lieu plein de sources. Rejetons tout fardeau. Et la foi, on le voit dans, là aussi, ce chapitre 11, la foi ne va pas nous conduire dans l'immobilisme. C'est, je dirais, un remède efficace pour rejeter le fardeau et nous permettre de continuer notre marche dans le plan de Dieu. Et tous les témoins de la foi cités dans le chapitre 11, vous pourrez le relire, mais ils ont été tous actifs. Quand Dieu s'est révélé à Noé en disant « je vais détruire la population parce qu'elle est mauvaise », il n'a pas dit « ben je vais m'asseoir et puis je vais attendre de voir comment ça se passe ». C'est par la foi que Noé construisit une arche. Donc il ne s'est pas arrêté et il a continué à avancer. C'est par la foi que Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il avait reçu la promesse Il est parti, il devait le recevoir en héritage. Il est parti confiant, mais il n'est pas resté dans l'immobilisme. C'est par la foi aussi qu'Abraham offrit Isaac, son fils unique. C'est par la foi que Moïse fut caché pendant 3 mois par ses parents. Et on le voit, on pourrait prendre d'autres exemples, la foi est suivie de conséquences, d'actes dans lesquels nous devons entrer, en gardant les regards fixés sur Dieu. Et la plupart de ces hommes, au moment de leur acte, ne savaient pas comment les choses allaient se finir. On le dit là aussi souvent, quand on lit la parole, ou quand on est passé par des épreuves et qu'on en est sorti, on connaît la fin. Mais quand Noé a commencé à construire son arche, essayez, ne serait-ce qu'aujourd'hui, avec les moyens modernes, si Dieu venait à me dire, Daniel, il faut que tu construises une arche pour rentrer tous les animaux parce qu'il va se passer quelque chose quand même d'exceptionnel. Ouf, ouf, ouf. Et pourtant, c'est quand même assez facile d'aller en Syrie chercher du bois. Il y a des tronçonneuses, il y a des outils, il y a des visseuses. Imaginez Noé à l'époque. Et tous ces actes-là ont dû faire naître et mettre en œuvre une foi active et réelle en disant, bah, écoute Dieu, oui, je t'obéis. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Et tous ces hommes auraient pu vivre ces circonstances comme des épreuves, comme des fardeaux. Ils auraient pu renoncer, ils auraient pu s'arrêter, attendre. Mais ils avaient, comme le dit le verset 1 du chapitre 11, cette belle définition de la foi, cette définition simple, ils avaient cette ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas, et je dirais la démonstration des choses qu'on ne voit pas encore, parce qu'on ne les voit pas pour le temps présent, mais on sait qu'un jour on les verra si on place notre foi en Dieu. Alors nous donc aussi, nous sommes appelés à vivre la même foi. Rejetons tout fardeau, pourquoi faire ? D'abord pour bien se sentir bien et léger, c'est déjà pas mal, hein. Mais il nous est dit pour courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courir avec persévérance, la notion de persévérance, je ne vais pas m'y attarder, mais fait référence à deux qualités. C'est d'une part la patience et la constance. Et quand on court vers le but, quand on court dans cette carrière, je vais développer un petit peu derrière cette notion de carrière, on est appelé à courir avec cette persévérance, c'est-à-dire de manière constante. Hein, je ne vais pas vous refaire la fable du lièvre et de la tortue, mais on est appelé à courir de manière constante et de manière patiente. Alors la carrière qui nous est ouverte, c'est un terme... Moi, j'ai essayé de creuser un petit peu ce sujet de la carrière parce que il ne s'agit pas de la carrière professionnelle. Il ne s'agit pas d'une carrière où on va chercher du sable ou des cailloux, parce que je ne vois pas l'intérêt que ça aurait et ce que ça viendrait faire dans ce verset. Et en cherchant un petit peu, et en prenant notamment différentes traductions du terme original, la traduction second 21 parle de courir avec persévérance dans l'épreuve qui nous est proposée. D'autres traductions, les traductions de Darby et Martin, parlent de la course qui nous est proposée. Et la traduction Osterwald parle de l'arène. Alors, vous voyez, des notions d'épreuve, de course, d'arène. Et en fait, le mot original en grec, le mot original, c'est « agone ». Et ce mot-là, il est utilisé dans les textes grecs, il fait référence aux jeux, aux combats, aux courses qui se tenaient dans les arènes ou dans les stades. Dans les jeux du stade, on utilisait pour le combat ce terme « agone ». Et quand on regarde dans tous les autres textes du Nouveau Testament où on retrouve dans le texte original grec ce même mot « agone », c'est le seul endroit où il est traduit par « carrière ». Dans tous les autres textes, il est traduit par « combat ». Et notamment, j'aurais pu en prendre d'autres, mais quand Paul écrit à Timothée, dans la première épître à Timothée, il l'encourage en lui dit « combat, le bon combat de la foi », c'est le même texte. Et dans la deuxième épître à Timothée, Paul lui dit « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Et donc, quand nous sommes appelés à rejeter tout fardeau pour courir avec persévérance dans la carrière, c'est aller dans ce combat de la foi. Dans ce combat de la foi que Dieu nous appelle à vivre de manière naturelle. En tant qu'enfant de Dieu, on chante souvent, on proclame la victoire de Christ et nous sommes amenés, en tant qu'enfant de Dieu, à marcher et à vivre ce bon combat de la foi. Et puis, de quelle manière devons-nous courir ? Avec persévérance, oui, mais ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Là aussi, d'autres traductions disent « gardant les yeux fixés sur Jésus, regardant à Jésus, fixant les yeux sur Jésus. » Et pour les gens qui font de la course, que ce soit du sprint, de la course de fond, du marathon, je peux vous assurer que si vous regardez tous les côtés en courant, vous risquez de vous casser la figure, vous risquez de courir en zigzag. Si vous essayez de regarder derrière, c'est encore plus difficile. Mais les coureurs, dans chaque discipline, vont regarder un but bien précis. Le coureur de sprint, il va regarder, il est dans son couloir, il va regarder à ne pas dévier de sa ligne, parce que s'il passe sur la ligne du voisin, il est disqualifié, et il va regarder sa ligne d'arrivée. Et il va courir avec sa ligne d'arrivée en visu. Le coureur de demi-fond, je ne suis pas un spécialiste, mais il va se fixer des points de repère. Le marathonien, il va se fixer des points de repère pour avancer et courir. Et c'est de cette manière-là que nous sommes appelés à courir ce combat de la foi. C'est à regarder Jésus. À regarder non pas Jésus sur la croix, non pas Jésus au tombeau, mais Jésus ressuscité, Jésus glorifié, Jésus qui règne et qui nous donne la force d'avancer et de vaincre. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite ou qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. C'est un processus de croissance qualitative et quantitative. Plus je vais mettre ma foi en action, peut-être sur des choses petites, et plus je vais mettre ma foi en action sur des choses un peu plus grandes, et ça va croître parce que Dieu, Jésus, va faire croître cette foi. Et quand on lit là encore les témoins de la foi, Il est, quand on regarde, on dit, mais attends, moi jamais je pourrais vivre ça. Mais ils avaient une vie exercée à la foi. Ils avaient une vie exercée à la foi. Ce n'est pas du jour au lendemain où ils se sont réveillés en disant, je vais remporter des victoires. Non, parce que c'était leur quotidien. C'était cette ferme assurance qu'ils avaient dans le Dieu qu'ils servaient. Et en ayant les regards sur Jésus, c'est lui qui suscite, qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Il la façonne, il la travaille. La foi n'est pas quelque chose de naturel, mais en fixant mes regards sur Christ, c'est-à-dire en réalisant la plénitude qui est en lui, en plaçant toute ma foi, toute ma confiance dans son œuvre accomplie à la croix, alors cette foi, elle va naître, elle va grandir en moi. Il y a un texte que je voudrais citer en conclusion, un verset du psaume 80, le verset 7. Psaume 80, verset 7, vous pourrez le relire en entier, mais ce verset, il dit « J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. » J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. C'est pas ça ? 81 ? J'ai pas dit 81 ? Ah, pardon. Non. Non, mais j'aurais pu me tromper. Hein. Oui, psaume 81. Je n'ai peut-être pas suffisamment appuyé le 1. Acceptons de nous décharger sur Dieu de tous nos fardeaux. Mais ne retenons rien. J'ai lâché la corbeille. Moi, je trouve que c'est parlant parce que à un moment, Dieu a commencé à... Et cette personne-là, elle devait bien être chargée parce qu'elle en avait sur les épaules puis elle portait encore avec ses deux mains. Mais elle a accepté de lâcher. Parce que si je vais à Dieu pour qu'il me décharge mais que je n'accepte pas de lâcher, ça ne va pas être possible. Et parfois, peut-être pas vous, hein, mais moi, j'ai des fois peut-être un peu tendance à dire « Attends, Seigneur, je vais t'aider à porter parce que ça va être trop lourd. » On va porter à deux. On va porter à deux, Seigneur, ce sera plus facile. Alors, je le dis sous forme de boutade, mais Mais dans la vie, est-ce qu'on ne fait pas un peu comme ça des fois? Je vais à Dieu, je dépose les choses, mais j'en garde un petit peu quand même, parce que soit je veux garder un peu la main parce que je veux maîtriser, soit parce que c'est difficile de lâcher, d'accepter que ce soit Dieu qui le prenne, mais lâchons, lâchons, lâchons la corbeille, lâchons, rejetons tout fardeau. Dans la notion de rejeter, il y a deux manières, c'est refuser. Je rejette. Il y a une situation, il y a une parole, il y a quelque chose. Non, je rejette. C'est-à-dire que je n'en veux pas. Et je prends position en disant non, je n'en veux pas. Et ça, nous sommes appelés à le faire. Et rejeter, ça peut être aussi jeter de nouveau. C'est quelque chose que j'avais déposé. Et puis peut-être qu'à un moment, je l'ai repris. Et puis de temps en temps, je le redépose parce que c'est trop lourd. Et puis quand je vais mieux, eh ben, je reprends. Vous savez, les personnes qui ont, je parlais de mal de dos, ou parfois, ben, il y a des moments où on n'en peut plus, donc on est obligé de s'arrêter et puis de se faire soigner un petit peu. Puis quand on retrouve des forces, eh ben, on recommence. Et puis parfois, ben, on se rend compte qu'on reporte de nouveau trop lourd, et puis le cycle, il est ainsi. Et rejeter, c'est aussi jeter une nouvelle fois. Peut-être que ce matin, plusieurs ont repris des fardeaux qu'ils avaient abandonnés, et qui de nouveau pèse sur les épaules. Et on peut dire, oui, mais je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi, c'est dans ma nature. Ben, je dirais, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que Jésus est venu changer notre nature. Jésus est venu changer notre nature. Il est venu nous transformer. Alors fixons les regards sur lui, mettons notre foi en action et prenons cette décision de dire, Seigneur, ce fardeau qui me pèse, peut-être depuis l'enfance, depuis peut-être une situation, on le sait parfois, des choses qui sont précises et qui pèsent sur les vies. Seigneur, j'accepte ce matin de le déposer, j'accepte de te le confier totalement pour que tu puisses venir me restaurer, me rétablir, me redonner de la vigueur pour que je coure les regards fixés sur toi. Rejetons tout fardeau, acceptons quand les situations, si difficile soit-elle, se présente de dire « Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux faire au travers de cette situation, mais je fixe les regards sur toi. Je regarde à toi et l'épreuve, je veux la traverser avec toi et je sais que ce sera une source de bénédiction. » Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes encouragements. Merci parce que tu es venu toi-même sur cette terre en simple homme nous montrer le chemin. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Et nos chemins, tu les connais parce qu'ils ont été aussi tes chemins. Et tu as souffert l'opprobre, l'ignominie jusqu'à la croix. Tu as souffert l'injustice, tu as porté toi-même les fardeaux. Tu as porté nos fardeaux. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Merci Seigneur parce que celui et celle qui vient à toi, si faible soit-il, si faible soit-elle, tu viens et tu ôtes le fardeau et tu redonnes la vie, tu redonnes la vigueur, tu donnes la force Seigneur d'avancer et non seulement d'avancer mais de courir. Merci Seigneur parce que c'est toi qui suscites la foi dans les cœurs. Nous n'avons pas d'effort à faire, nous avons juste à accepter, à reconnaître. C'est vrai que nous sommes si prompts à le faire de nos lèvres, à proclamer la victoire de Christ. Mais parfois, il y a un tel décalage dans nos actions au quotidien, entre ce que nous confessons de notre bouche et ce que nous vivons. Seigneur, apprends-nous à lâcher prise. Apprends-nous, Seigneur, à nous attendre à toi dans les petites choses de la vie, comme dans les grandes, dans les choses plus faciles, comme dans les choses difficiles. Que tout fardeau, tout souci soit déposé sur toi et sur toi, Saint Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Amen.